Chers frères dans le sacerdoce, frères et sœurs bien-aimés, nous voici réunis en cette église en ce premier samedi du mois consacré à la méditation du cœur immaculé de la Sainte Vierge. Ce cœur complètement transparent à l'enseignement de Dieu, ce Dieu qu'il a choisi, appelé et établi pour être la mère de Dieu dans l'ordre de la chair. C'est vers elle que nous nous tournons à présent, elle qui gardait et méditait en son cœur très saint tous les événements de la vie du Seigneur, qu'elle nous prenne chacun par la main pour nous permettre de méditer le mystère de la transfiguration du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le mystère de la transfiguration du Seigneur nous conduit chacun sur cette haute montagne où le Seigneur a convié ses plus proches disciples. Il vous emmène, Pierre Alban, en haut de cette montagne, avoisinant les cieux. Le jour où vous vous engagez l'un envers l'autre est celui où nous contemplons la transfiguration du Seigneur. Le Seigneur est transfiguré. Pourquoi ? Pour comprendre les enjeux de la transfiguration, il nous faut revenir 6 jours avant cette ascension. Le Seigneur a posé une question fondamentale aux apôtres et à l'apôtre Pierre qui va répondre. Pour vous, qui suis-je ? Cette question, Pierre Alban vous est posée et vous avez répondu à la suite de l'apôtre Pierre que le Seigneur Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, celui en qui vous avez placé votre foi, celui en qui vous confiez tout cet avenir qui s'ouvre à vous en ce jour. Saint Pierre a donc confessé la foi. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement le Messie attendu par Israël, l'accomplissement de chacune des promesses. Il est également le Fils du Dieu vivant. Ensuite, de cette question fondamentale à l'origine de notre foi, le socle de notre foi, le Seigneur a annoncé, non pas une fois, deux fois, mais à 3 reprises, qu'il allait devoir beaucoup souffrir, mourir, mais le 3e jour, ressusciter. Devant l'épreuve, devant la souffrance annoncée, Pierre refuse. Refuse la croix, refuse la passion. Et le Seigneur a insisté, il va beaucoup souffrir, offrir sa vie, mais le 3e jour, ressusciter. Pour entreapercevoir un quelque chose de la résurrection du Seigneur, voilà que le Seigneur nous conduit en haut de cette montagne où il est transfiguré. Les apôtres cheminent aux côtés d'un homme, Jésus de Nazareth, mais ils ont à confesser dans la foi qu'il est le Dieu vivant. Ainsi donc, pour conforter les apôtres dans cette foi, voilà que le Seigneur est transfiguré. Son visage devient blanc comme le soleil, son vêtement éclatant, et le voilà qui s'élève à la gloire du ciel. L'amour prend toujours les devants. Et le bon Dieu qui est amour devance toujours. Il manifeste par la transfiguration que les tourments de la passion, sa mort infâme sur le bois de la croix, ne seront pas l'échec de Dieu, l'échec de la rédemption, mais qu'il faut attendre dans la foi le 3e jour pour le contempler ressuscité d'entre les morts. Ce cheminement qui nous conduit de la mort à la vie est celui que nous avons commencé au jour de notre baptême. Pierre, Alban, au jour de votre baptême, vous avez été adoptés par notre grand Dieu, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et voilà que ce Dieu d'amour vous conduit de la mort à la vie. Pas simplement à la vie du monde avec ses manières, mais à la vie éternelle. Et nous entendons Saint Paul, le grand apôtre des nations, nous dire qu'il faut vivre en ne perdant pas de vue les réalités d'en haut. Et je sais combien dans votre préparation extrêmement sérieuse, eh bien vous avez médité ces réalités d'en haut. Je sais combien vous êtes convaincu que ce baptême que vous avez reçu doit se poursuivre dans cette sanctification commune. Pierre a choisi Alban, Alban a choisi Pierre, et vous savez que c'est ensemble que vous allez à présent cheminer vers la sainteté. Si le Seigneur prend toujours les devants dans son amour, voilà une leçon pour chacun d'entre vous. Pour vous, Pierre, pour vous, Alban, l'amour que vous vous portez l'un pour l'autre devra toujours prendre les devants. Vous avez appris en ces quelques années à mieux vous connaître et ce temps de fiançailles a été prolixe, en grâce. Eh bien voilà que vous aurez à devancer. Devancer les besoins de l'un ou de l'autre. Et vous aurez ainsi à témoigner que l'amour prend toujours les devants, à l'image de notre Seigneur Jésus le Christ, qui s'est chargé de la croix par amour pour nous, pécheurs. Le Seigneur a donc annoncé de grandes épreuves, celles de la croix. Ensuite de quoi ? Le triomphe de sa résurrection. Seconde leçon, Pierre et Alban, pour votre mariage. Quelque chose à inscrire en lettres d'or en votre âme. Dieu ne permet l'épreuve qu'en vue d'un bien plus grand. Lorsque les épreuves en votre vie ne manqueront pas de se présenter, alors qu'on pourrait être désespéré, accablé, demandant des comptes au bon Dieu sur ce qui nous arrive, ne jamais oublier dans la foi, dans l'espérance et dans la charité que Dieu ne permet l'épreuve qu'en vue d'un bien plus grand. C'est la leçon de la transfiguration. Le Seigneur a annoncé qu'il allait beaucoup souffrir, qu'il allait mourir sur le bois de la croix. Mais quel est ce bien plus grand ? Nous sommes le bien plus grand de la passion du Seigneur, car le Seigneur est le premier des ressuscités et nous avons chacun à ressusciter avec lui. C'est la promesse contractée au jour de notre baptême. Et Dieu, contrairement à nous, tient toujours ses promesses. Mort avec le Christ, plongé dans l'obscurité du tombeau, c'est avec lui que vous ressusciterez. Ayez donc à cœur, à travers cette vie de couple, à ne jamais oublier qu'à travers les épreuves, Dieu a toujours en vue un bien plus grand. Je sais combien vous avez placé votre foi en lui. Et donc nous prions aujourd'hui, votre famille, vos amis rassemblés, eh bien pour que vous puissiez toujours triompher, car le bien triomphe toujours. Lorsque le Seigneur est ainsi transfiguré, vous l'avez entendu, apparaissent et Moïse et Élie. Moïse, le grand patriarche, Élie, le grand prophète. En contemplant ainsi le Seigneur transfiguré en compagnie de Moïse et d'Élie, nous avons la loi figurée par Moïse, les prophètes figurés par Élie et le Seigneur Jésus qui est l'Évangile. Nous avons là la plénitude de la révélation et cette plénitude est manifeste lorsque la nuée lumineuse envahit même les apôtres effrayés. Cette foi qui vous anime, que vous avez reçue de Dieu, que vous avez reçue aussi du témoignage de vos familles et dans chacune de vos lettres, vous avez rendu grâce pour cette vie de foi vécue en vos familles. Voilà que nous contemplons en cette transfiguration, au jour de votre mariage, la plénitude de la révélation. Et vous avez tenu à ce qu'avant qu'il y ait le mariage, il y ait l'invocation à l'Esprit-Saint. L'une des missions de l'Esprit-Saint est de nous conduire vers la vérité tout entière. Eh bien, nous prions dès à présent pour que vous puissiez toujours vivre de la plénitude de la révélation chrétienne qui est notre Seigneur Jésus le Christ, puisque c'est avec lui que vous allez vous sanctifier dans le mariage. Scrutant les Écritures, saint Jérôme nous donne l'ordre d'apparition et de Moïse et d'Élie. Moïse est mort, alors qu'il voit de loin la terre promise, une terre sur laquelle il ne lui est pas permis d'entrer. Il meurt. Le nouveau Moïse, notre Seigneur Jésus le Christ, entrera en terre promise. Avec Moïse, c'est donc également les morts qui paraissent aux côtés du Seigneur Jésus. Quant au prophète Élie, il n'a pas connu le mystère de la mort, lui qui fut élevé à la gloire du ciel dans son char de feu. Aux côtés du Seigneur Jésus, c'est donc les morts et les vivants qui viennent témoigner que le Seigneur est la résurrection et la vie. Au jour de votre mariage, alors que vos deux familles sont unies à travers vous, eh bien nous prions également pour tous les fidèles défunts qui, comme Moïse, en cette transfiguration, puissent paraître face au Seigneur Jésus. Et avec le prophète Élie, nous n'oublions pas que nous n'avons d'autre destination que le ciel, cette vie éternelle dont vous avez marqué chacun dans vos lettres. Elle était bien la destination finale et également l'aide réciproque sur ce chemin de foi. En contemplant ainsi la transfiguration du Seigneur, nous voyons les apôtres effrayés. La manifestation du Seigneur a de quoi étonner les apôtres qui luttent contre un profond sommeil. Dans l'Ancien Testament, il est dit que l'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et voilà que ce mystérieux sommeil gagne les apôtres. Et voilà que tout d'un coup, pris dans cette nuée lumineuse, la voix de Dieu le Père se fait entendre. Le mystère de la transfiguration du Seigneur est avec le baptême la manifestation de la Trinité Sainte. Les pères de l'Église nous disent que Dieu le Saint-Esprit est cette nuée lumineuse qui envahit jusqu'aux apôtres et qui nous envahit à leur suite chacun. Nous appartenons à Dieu le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous le supplions pour que tout au long de cette vie qui s'ouvre à vous, il puisse vous conduire vers la vérité tout entière, vous apporter le discernement, particulièrement lorsque les enfants viendront couronner votre amour. Oui, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint sont manifestés en ce mystère que vous avez choisi pour conduire cette cérémonie, pour guider votre mariage. Enfin, tout d'un coup, ils ne virent plus que Jésus seul. Et nous entendons alors saint Thomas d'Aquin s'interroger « Mais où se trouve donc le miracle dans la transfiguration du Seigneur ?» Et la Kinate de saint Roger, le miracle se trouve-t-il dans le visage resplendissant du Seigneur, dans la luminosité de son vêtement? Le miracle se trouve-t-il en ce que Moïse et Élie paraissent devant le Seigneur Jésus? Le miracle se trouve-t-il dans cette étrange nuée lumineuse? Et saint Thomas de conclure, le véritable miracle de la transfiguration, ce n'est pas que la divinité soit manifestée. Le miracle des miracles, comme il l'appelle, c'est que la divinité du Seigneur Jésus soit contenue dans son humanité. Ils ne virent plus que Jésus seul. Voir Jésus seulement dans son humanité est un miracle, puisque est cachée à nos yeux la gloire de sa divinité. Deux leçons pour votre mariage, Pierre et Alban. Vous aurez réciproquement à cultiver cette vie divine qui coule en votre âme, cette vie de la grâce. Et je sais qu'en ce temps de fiançailles, vous avez déjà cheminé, à la fois pour trouver les défauts, pour les qualités, pour voir ce qu'il allait fallait travailler avec un très grand sérieux qui m'a profondément édifié, ça me change. Mais du coup, voilà, vous aurez toujours à rechercher en votre humanité cette gloire de la divinité qui vous appelle à la gloire du ciel. Votre couple ne sera pas un amour fusionnel. Parce que dans une fusion, il y en a un qui se fait avoir. Il suffit de penser et de transposer cela dans le langage des entreprises. Une entreprise qui a fusionné, c'est qu'il y en a une qui s'est fait avoir quand même sur les deux. Le mariage chrétien n'est pas un amour fusionnel, c'est un amour de communion. Un amour de communion qui fait que vous allez vivre l'un pour l'autre. Dans les Écritures, on s'interroge, mais qui donc est mon prochain ? Eh bien voilà Pierre, votre prochain, c'est Alban. Alban, votre prochain privilégié, c'est Pierre. Et alors que ce mariage, nous allons prier également pour ces enfants que vous allez accueillir et qui vont manifester la fécondité de votre amour, bien nous prions pour que vous puissiez également, non pas simplement éduquer, élevez vos enfants comme vous-même avez bénéficié dans l'action de grâce de cette éducation chrétienne reçue de vos parents. De même que le couple n'est pas renfermé sur lui-même, mais s'ouvre à l'accueil des enfants, la dernière leçon de la transfiguration du Seigneur, c'est que vous aurez également à reconnaître autour de vous, dans les pauvretés de ce monde, le Seigneur souffrant, le Seigneur qui vient à votre rencontre. Nous savons que la vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu qui nous renvoie à l'amour du prochain. Non seulement votre couple n'est pas fusionnel, c'est un amour de communion, de profond respect de l'un envers l'autre. C'est un amour de communion parce qu'il va s'ouvrir aux enfants, à cette famille, ce foyer que vous allez fonder, mais il s'ouvre également aux réalités du monde où le chrétien est appelé à reconnaître dans les pauvres le visage souffrant du Seigneur. Vous l'aurez compris, Pierre et Alban, à l'école du Saint-Esprit, nous prions pour qu'ils puissent vous assister en chaque instant de votre vie pour vous conduire de cette terre jusqu'à la gloire du ciel. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, en ce premier samedi du mois, vous prendre sérieusement par la main et vous conduire à son Fils. Vous savez comme moi quel est le chemin le plus court pour aller au Seigneur Jésus. Ainsi soit-il.